Radio Kapi. Oh, Kapi.
À la une de cette session d'actualité, tentative des coups d'État déjouée ce matin à Kinshasa par l'armée. Le général Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC, précise que la situation est sous contrôle et promet de donner des précisions incessamment. Entre-temps, des réactions bondissent déjà après ces coups d'État étouffés par les forces de sécurité. Dans ce journal, vous suivrez celle de l'ambassadrice des États-Unis en RDC et celle de la représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO. Le ministre des Travaux publics et infrastructures annonce pour ce lundi l'ouverture de l'avenue Nguma après plusieurs mois de travaux. Cependant, seuls les véhicules de petit tonnage pourraient y circuler pour permettre au béton de sécher convenablement, précise Alexis Guissaro. Paulin Jingulula, l'un des organisateurs de la foire internationale qui se tient à Bukavu depuis le 7 mai, est l'invité de ce journal. Il sollicite la prolongation de cette foire dont la clôture est prévue ce lundi 20 mai pour donner de la chance à tous les partenaires d'écouler leurs produits. Bonsoir à toutes et à tous. Vous le savez, l'actualité reste dominée ce dimanche par cette tentative de coup d'État étouffée dans l'œuf ce matin à Kinshasa par l'armée. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de FARDC à la télévision nationale congolaise RTNC. Le général Sylvain Ekenge a précisé que les assaillants et leurs chefs ont été mis hors d'état de nuire. Il appelle ainsi la population kinoise à vaquer librement à ses occupations et promet de donner plus de précisions dans les heures qui suivent. On écoute dans ses propos recueillis par Alain Hirung.
Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'une tentative de coup d'État a été étouffée dans l'œuf par les forces de défense et de sécurité. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. Ces étrangers et Congolais ont été mis hors d'état de nuire, leurs chefs y compris. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à la population de vaquer librement et tranquillement à ses occupations. Les forces de défense et de sécurité ont la parfaite maîtrise de la situation.
Mais que s'est-il passé ce matin à la Gombe à Kinshasa? Retour sur les faits dans ce reportage de Blaise Makassi, rendu par Alain Hirung.
Tôt ce matin, les habitants de la commune de la Gombe, cœur des institutions, sont réveillés par des coups de feu. La résidence de Vital Kamerhe, vice-premier ministre et ministre de l'économie, candidat au poste du président de l'Assemblée nationale, a été attaquée vers 4h30 ce dimanche 19 mai par un groupe d'hommes armés en tenue militaire. Michel Moto, porte-parole de Vital Kamerhe et député national de son parti, note que deux des policiers commis à sa garde ainsi qu'un des assaillants ont perdu la vie. Ces hommes armés ont par la suite fait incursion au palais de la nation, siège de la présidence. Quelques heures après l'attaque, la garde républicaine a interpellé ce groupe d'assaillants habillés en treillis avec des drapeaux du Zaïre. Ces assaillants ont affirmé, sur des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, vouloir changer des choses dans la gestion de la République. La garde républicaine s'est déployée sur le boulevard Tchatchi. Des blindés ont pris position dans les environs du palais de la nation. Pour l'instant, la situation est sous contrôle des forces de défense et de sécurité, affirme le porte-parole des FARDC.
Notez que plusieurs sources présentent Christian Malanga comme l'homme au cœur de la tentative des coups d'État déjouée par le FARDC. Âgé de 41 ans, Christian Malanga est bien connu dans les milieux de la diaspora installée aux États-Unis pour ses prises de parole anti-pouvoir. Souvent en treillis, il s'est toujours présenté comme leader du mouvement appelé New Zaïre et d'un regroupement qu'il appelle United Congolese Party UCP. Plusieurs réactions sont déjà enregistrées après ces coups d'État déjoués par les forces de sécurité. L'ambassadrice des États-Unis en RDC s'est dit choquée par les événements de ce matin et très préoccupée par les rapports faisant état des citoyens américains prétendument impliqués. Soyez assurés que nous coopérerons avec les autorités de la RDC dans toute la mesure du possible, alors qu'elles enquêtent sur ces actes criminels et tiennent pour responsables tous citoyens américains impliqués dans sont des actes criminels. C'est ce qu'écrit Lucie Tamline sur son compte X. Pour sa part, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO condamne avec la plus grande fermeté l'attaque armée contre la résidence de l'honorable Vital Kamerhe et les palais de la nation. Bintou Keïta l'a aussi écrit sur son compte X. Jude Bilanda.
Dans un communiqué, les gouvernements de la République du Congo annoncent que suite aux événements survenus tôt ce matin en RDC, un obus en provenance de Kinshasa s'est malencontreusement abattu à Brazzaville dans l'arrondissement de Bakongo, précisément au quartier Mpissa dans la zone dite des Trois Francs. Cet accident, poursuit les communiqués, a directement touché 4 parcelles. Des éclats dus à l'impact ont également touché une dizaine d'autres parcelles environnantes. D'autre part, quelques personnes ont été légèrement blessées, l'une d'entre elles ayant été transportée à l'hôpital des armées de Brazzaville pour prise en charge par les services de santé. Le gouvernement de la République du Congo assure les populations de Brazzaville et particulièrement celles des quartiers concernés qu'il s'agit d'un incident isolé. Il invite les Brazzavilloises et Brazzavillois à vaquer aux occupations qui sont le leur en ce week-end de Pentecôte, conclut les communiqués.
Par ailleurs, Bintou Keïta dit suivre de très près l'évolution de la situation et se tient à la disposition des autorités congolaises pour fournir tout appui entrant dans le cadre de son mandat. Signalons tout de même que l'artiste gospel Moïse Mbiye a confirmé la tenue de son concert prévu ce dimanche au stade de Martyrs de la Pentecôte. Parmi les réactions, on note aussi celle de l'interfédération de l'UNC Sud Kivu qui parle d'une tentative d'assassinat de son président national Vital Kamerhe. Le but étant, selon cette structure, de l'empêcher de prendre la tête de l'Assemblée nationale. On écoute un extrait de la déclaration de l'UNC Sud Kivu, lu par son secrétaire interfédéral Norbert Yabé.
La tentative d'assassinat du président national de l'UNC, l'honorable Vital Kamerhe, et les membres de sa famille proche à leur résidence de Kinshasa autour de 4 heures du matin de ce dimanche, orchestrée dans une confusion d'attaques ciblées des institutions, notamment au palais de la nation. L'interfédération de l'UNC Sud Kivu condamne avec la dernière énergie cet acte lâche des ennemis de la démocratie et de la paix en République démocratique du Congo qui, par peur de la carrure politique et de l'engagement politique du président national de l'UNC, l'honorable Vital Kamerhe, pour un Congo renouvelé par des valeurs républicaines, tente de lui arracher la vie afin de l'empêcher d'exercer les fonctions de président du bureau définitif de l'Assemblée nationale et d'accomplir sa vision politique.
Au Sud Kivu, la Cour d'appel valide l'élection du gouverneur et vice-gouverneur élu le 2 mai dernier par les députés provinciaux. La Cour d'appel a siégé hier à Bukavu comme cour administrative pour proclamer les résultats définitifs de l'élection de ces deux futurs dirigeants de la province du Sud Kivu. Jean Kassami nous fait le point.
Jean-Jacques Purusi et Jean-Jacques Elakano, respectivement membres de l'Alliance des Forces démocratiques du Congo, AFDC, et de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, sont proclamés gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Sud Kivu. C'est ce samedi 18 mai lors d'une audience publique tenue à la cour d'appel de Bukavu. Jean-Jacques Purusi et Jean-Jacques Elakano étaient les constituants du ticket de l'Union sacrée de la nation, plateforme majoritaire. Après cette décision de la Cour d'appel de Bukavu, Purusi et son vice n'attendent maintenant que l'ordonnance présidentielle pour s'installer au gouvernorat du Sud Kivu, probablement le 28 mai prochain. Purusi était élu le mardi 2 mai au deuxième tour, après un premier tour partagé avec les candidats Soumaïl Miseka de l'UNC de Vital Kamerhe. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
Du côté de l'Ituri, l'Assemblée provinciale de l'Ituri a validé samedi les mandats des 6 nouveaux députés provinciaux. C'était au cours d'une séance plénière en exécution de l'arrêt du 14 mai dernier de la Cour d'appel de cette province, proclamant définitivement les 47 élus que compose cette première institution provinciale, ce qui ouvre la voie à l'organisation des élections sénatoriales d'ici le 24 mai prochain, conformément au calendrier de la CENI. Martial Kizabiamungu.
Il s'agit des députés provinciaux Mogassa Jérôme du territoire du Romo, Eli Okonte du regroupement politique 4AC, Ngona Louis Franck, lui du territoire du Djougou, sous l'étiquette du regroupement politique AASC, Opio Aloma Bienvenue, des AB50 a réussi à décrocher un siège dans les territoires de Mahagui, ensemble avec Fonouti Aguenonga Rachid des 4AC. Tandis que dans les territoires de Mambassa, le regroupement politique A1 a fait élire deux députés provinciaux, Kassere Kassiva Mwenda Gilbert et Katsuva Viaku Mapouli. Selon les présidents intérimaires de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, Masumbuko Adaba, cette validation rend au complet la composition des membres de cet organe délibérant conformément à la Constitution, ce qui permettra, selon lui, à la Commission électorale nationale indépendante CENI d'organiser les élections sénatoriales le 24 mai prochain. Notons que parmi les six autres députés provinciaux dont leurs mandats ont été invalidés, figure l'ancien président du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, Bounia Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Dans la province du sud du Kwilu, la deuxième phase de l'opération des contrôles et identifications biométriques des agents et fonctionnaires de l'État a débuté depuis lundi dans la ville de Bandundu et se poursuit pour une durée de 25 jours. Cependant, plusieurs agents, dont ceux du secteur de la santé, manquent des fiches contenant les codes qui errent devant leur permettre de passer à l'opération. Ils s'inquiètent et s'interrogent sur les sorts leur réservés. Situation qui sera résolue, rassure l'équipe des contrôleurs. Reportage de Irène Mbomaluzolo.
Si certains agents et fonctionnaires de l'État se disent satisfaits pour avoir obtenu facilement leur carte biométrique, cela n'est pas le cas pour d'autres qui manquent des fiches d'identification pour passer au contrôle. Ces derniers montent au créneau et expriment leur mécontentement.
Les fiches devaient provenir de Kinshasa, mais le nombre qui est venu était insuffisant. Et nous sommes nombreux qui n'avons pas encore jusqu'à présent eu le code qui est les fiches capables d'aller au contrôle. Donc nous déplorons, nous ne savons pas que faire. Que l'État trouve la solution pour que nous tous, nous puissions aller au contrôle.
En réaction, les coordonnateurs provinciaux de ces opérations dans la province du Kwilu rassurent que la situation est sous contrôle. Michel Katanga.
Il y a nos équipes qui sont au niveau de Kinshasa, qui sont en train d'y travailler. Donc il y a un lot de fiches que nous attendons encore pendant que nous sommes ici, parmi lesquelles se retrouvent leurs fiches. Nous sommes venus ici pour eux, c'est leur droit.
Michel Katanga invite les agents qui ont leurs fiches d'identification à se présenter rapidement au site de contrôle, car selon lui, les jours sont limités. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Bonne nouvelle pour les usagers de l'avenue Nguma à Kinshasa. Le ministre des Travaux publics et Infrastructures annonce pour ce lundi l'ouverture de cette route après plusieurs mois de travaux. Alexis Guissaro, qui l'a dit ce week-end, précise par contre que seul le véhicule de petit tonnage pourrait y circuler pour permettre au béton de sécher convenablement sur certains tronçons. On l'écoute dans ses propos choisis par Alain Hurong.
La raison est simple. C'est qu'il y a des parties qui ont été bétonnées. Et le bétonnage nécessite un certain délai pour la maturation du béton. Donc, dans 7 jours après, ils pourront effectivement circuler eux également sur ces routes. Donc, deux dates à retenir, le 20 pour les véhicules de petit et moyen tonnage, c'est-à-dire voitures, les camionnettes, ainsi de suite, et le 27 pour tout le monde, c'est-à-dire en ce compris les grands véhicules de grand tonnage. Le premier ennemi de la route, c'est l'eau. Et donc, il faut une bonne gestion des eaux sur la route. Et il est quand même assez malheureux de constater qu'il y a beaucoup, effectivement, par-ci par-là, des tuyaux qui sont sectionnés et dont les eaux continuent à couler sous la chaussée. Et ça, c'est une chose qu'il faut absolument corriger, qu'il y ait une collaboration permanente entre les différents réseaux.
Actualité internationale.
Au Niger, Niamey et Washington trouvent un accord pour un retrait américain d'ici mi-septembre. L'armée américaine s'engage à retirer son millier de soldats et leur matériel du Niger au plus tard le 15 septembre 2024. C'est ce qui ressort de plusieurs jours des négociations entre les armées nigériennes et américaines à Niamey. Les communiqués conjoints signés par les deux parties précisent que le retrait se fera dans le respect mutuel et la transparence.
L'invité.
Paulin Jingulula est notre invité. Il fait partie des organisateurs de la foire internationale qui se déroule à Bukavu, au chapiteau de la Botte. Il milite en faveur de la prolongation du délai pour donner la chance égale aux partenaires d'écouler leurs produits, surtout ceux qui sont venus de la Tanzanie et dont les produits traînent en cours de route pour des raisons diverses. Paulin Jingulula, dans cet entretien avec Jean Kassami.
Bonjour messieurs, nous voici à la foire internationale de Bukavu. Quel rôle jouez-vous dans l'organisation de cette foire?
La foire est organisée par des partenaires, c'est-à-dire des gens qui ont quelque chose à exhiber. Alors nous, en tant que SIAT, nous accompagnons les partenaires qui sont dans la production, commercialisation, transformation, collecte des produits agricoles. Alors nous sommes partie prenante de cette foire. Nous avons amené ces gens-là, ils sont en train d'exhiber leurs produits, une façon de les connecter au marché, de faire connaître leurs produits aussi.
D'où viennent-ils? Ils sont nombreux?
Ils sont trop nombreux. En principe, la foire elle est internationale parce qu'il y a des gens qui viennent de Tanzanie, il y en a qui viennent du Burundi, il y en a aussi qui viennent de Goma, d'autres provinces. Comme tu peux circuler, tu vois, il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont en train d'exposer.
Ceux-là que vous accompagnez, quels sont les différents produits qu'ils sont en train d'exposer ici à la foire?
Oui, ce sont des innovations. D'abord, il y a les haricots, puisque SIAT, nous travaillons dans les haricots. Il y a les maïs, il y a les maniocs. Il y a maintenant toute la gamme de la production des sous-produits qui sont transformés à partir de ces sous-produits-là. Ainsi que ici, vous allez trouver la farine des haricots. Vous allez trouver la farine composite, c'est-à-dire avec d'autres produits. Donc il y a un lot vraiment de produits bruts, transformés, secs, qui sont en train d'exposer.
Et comment vous appréciez l'intégration de ceux-là que vous accompagnez?
On ne savait pas que la population de Bukavu avait envie, aussi besoin de voir des choses au niveau où nous en sommes. Puisque ici, nous, l'avantage que nous avons eu, c'est de mettre ensemble tous les acteurs de la chaîne de valeur. Dans nos stands, vous allez trouver, il y a ceux qui donnent les appuis, comme les intrants agricoles, Agrifos, ceux qui font la multiplication, les agro-multiplicateurs, ils sont là-bas, avec leurs produits, la semence de base. Il y a les gens de l'université qui sont là-bas. Il y a l'INERA qui donne la semence de base, qui est là-bas, qui expose. Il y a maintenant ceux qui font les paquetages, les emballages, ceux qui font les transformations. Vous allez voir les biscuits à base des produits agricoles, haricots, le soja, tout ça. Ils sont là-bas. Alors, il y a la farine, plusieurs. Il y en a qui sont venus de Goma, il y en a qui sont venus de Kalemi, les gens qui nous accompagnent sur terrain.
C'est que vous appréciez la manière dont ça se déroule?
Nous apprécions énormément. D'ailleurs, nous nous sommes dit qu'il fallait que des instances comme ça soient organisé de temps en temps, puisque c'est de cette façon-là que les gens peuvent connaître les produits qu'il y a et peuvent aussi avoir des contacts pour savoir tel produit, où est-ce que je peux aller le chercher. Mais aussi ceux qui vendent, ils ont eu la grâce d'avoir maintenant des adresses, des personnes qui peuvent les racheter. Ce lien-là avec les marchés nous manquait et nous sommes vraiment contents.
Vous pensez que le délai imparti à cette activité suffit amplement?
Le délai est bon, du 6 au 16 c'est largement bon, 10 jours. Mais les gens n'ont pas eu l'information avant.
En faisant les tours de stand, j'ai constaté que nombreux émettent les mêmes vœux. Est-ce que vous pensez que l'organisation pourrait encore arracher un délai supplémentaire?
Je pense que si on pouvait ajouter encore 3-4 jours, ça ferait mieux. Et nous sommes en train de travailler sur ça. Puisque tu vois nos amis qui viennent de Tanzanie, leurs marchandises, c'est une partie qui est arrivée, l'autre partie n'est pas encore arrivée. Et ces gens-là, ils ont dépensé pour venir ici. Il faut leur donner un peu de temps pour qu'ils gagnent l'argent qu'ils ont investi.
Les contacts se déroulent bien entre les acteurs qui viennent de différents horizons.
Très bien. D'ailleurs, ils sont très excités à être au Congo, surtout les Burundais, les Tanzaniens. Vous savez, elles-mêmes, ils témoignent, ils disent, ils savaient que au Congo, c'est la guerre, il n'y a pas de vie. Maintenant, quand ils viennent ici, ils trouvent qu'il y a la vie, il y a même l'argent. Et ils sont très contents, ils disent, mais pourquoi pendant tout ce temps, vous ne nous avez pas invités? Maintenant que nous sommes là, nous pensons que nous allons créer des contacts pour que nous commencions les affaires avec les Congos. Ce qui est bien, c'est ce que nous cherchons d'ailleurs.
Donc, vous avez l'intention de pouvoir organiser des foires rotatives?
Ça a déjà commencé. La première fois, c'était à Bujumbura. Maintenant, nous sommes ici. Ensuite, nous irons en Tanzanie et ailleurs. C'est rotatif.
Merci beaucoup et bonne chance.
Paulin Jingulula, l'un des organisateurs de la Foire internationale de Bukavu, s'entretenait avec Jean Kassami. Et c'est la fin de cette session d'actualité sur Radio Okapi, mise en onde par Jean-Noël Mokondo, supervisée par Alain Irung et coordonnée par Jude Bilandankoumar. Patience Ngalula Mbombo vous l'a présenté. Merci de votre sympathique attention.